佛的人有三十岁的智慧，哎，觉得自己不会，不会，因为我就要用那套 expliquer pourquoi je me suis remercié, le pays des Hébreux, et le processus d'un retour. La Torah a révélé, a enseigné le programme, c'est-à-dire la finalité, l'objet de la sortie d'Égypte. Nous aurons donc un deuxième thème. Et nous verrons que, à ce deuxième thème, se relie un problème important qui aura être résolu par les autorités anarchiques dans l'avenir, c'est que celui de la cinquième coupe du Seigneur de Messeur. Le troisième point, eh bien, c'est la fin des exils, la fin du dernier exil. Et c'est là que se relient les deux niveaux de notre étude, la sortie d'Égypte et le temps présent, et les événements du temps présent que nous vivons. Bien, alors je vais immédiatement le premier point. Il y a dans la Gemara, c'est dans la Gemara de Sanhedrin, une phrase que je vais vous dire et qui va nous poser un problème sur ce que dit la Haggadah de Pessah lorsqu'elle parle de la date de la fin de l'exil d'Égypte. La phrase est la suivante. Amar Rabbi Yochanan, qui par Asman, chez le Mahashoggi Kitsi, parce que dit Rabbi Yochanan, que, comment ça nous sent, c'est d'ailleurs le même, qui par Asman, il se désagrège, il se désintègre. Ce qui compte, la fin de l'exil. Ceux qui font des comptes de la fin. Je vais tout de suite lire comment cela est motivé et pourquoi. Chez Alou, parce que il dit qu'il va chez Dieu et ta tête, puisque la fin est arrivée. Et donc il s'agit de gens qui connaissent la date éventuelle de la fin. Puisque la fin est arrivée, le Roma, et qu'il n'est pas venu, le Messie, chouille et là-bas, alors il n'y en a plus. Et la raison pour laquelle la Gemara nous engage à ne pas jouer à cela, à faire des comptes pour savoir si le temps est arrivé ou pas. Parce que cela nous menait à un désespoir, à une frustration telle, et il y a eu des cas où on a pensé qu'une certaine date annoncée par tel ou tel grand d'Israël, je ne nommerai pas les présidents de l'édition, même celle que tout cela est connu, on avait annoncé, et bien voilà, c'est pour maintenant, pour telle date, la date passe, il se passe rien, en tout cas il se passe rien de ce qu'on attendait, alors effondrement de l'espérance, effondrement de la foi, effondrement de la confiance, et on veut éviter cela. Et là, elle a raconté, mais attends-le, ce moment-là, ou maman, raconte, si ça, attends-le. Mais dans tous les cas, il faut attendre et ne pas tomber dans ce déploiement des mérachos victimes, c'est-à-dire de ceux qui font des commencés. C'est peut-être paradoxal que vous m'entendiez faire cette citation, mais je pense qu'elle est suffisamment claire. Okay? Donc, je me souviens d'un enseignement du Hatsiluda, sur le Yuacha, qui mettait l'accent sur le verset cité, Imitma Ama, Hakelo, Siltao. Ben, Siltao, c'est un retard. Et s'il y a un retard, c'est qu'il y a une date. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est-à-dire, l'enseignement même implique qu'effectivement, les temps de la fin sont connus. Et puis voilà, il faut pas les compter, il faut pas les dire. Pourquoi? Parce que si jamais, bien que la date soit passée, l'événement n'arrive pas, alors il risque d'avoir un effondrement de la foi et de la patience d'espérance. Je crois qu'il faut rendre hommage à cette énorme patience à travers 2000 ans, pour parler de notre présent exil qui prend fin de notre temps, puisque nous sommes ici à Jérusalem. Eh bien, il faut rendre hommage à cette énorme patience, cet énorme courage de patience de ces grands d'Israël qui savaient, et là je modifie un peu, les dates possibles, je dis les dates au pluriel, mais je reviendrai tout à l'heure, et qui se sont tués. En employant cette stratégie qui a permis à notre peuple de traverser 2000 ans, et 2000 ans c'est énorme, surtout 2000 ans d'exil. Maintenant nous en sommes sortis, enfin on est en train de sortir de l'exil. Mais essayons d'imaginer cette héroïque colossale d'un peuple qui traverse 2000 ans d'une histoire aussi anormale et qui a été d'ailleurs, au même
un niveau héroïque, et puis qu'il a tout traversé cette histoire. Mais c'était un enfer, histoire de l'exil, et pas seulement dans les moments de gravité, tout court, le fait d'être en exil, c'est d'une anormalité telle qu'il fallait vraiment un peuple extraordinaire, le peuple d'Israël, pour arriver à porter, supporter cette existence. Je crois qu'il n'y a dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité aucun exemple d'analogie quelconque, éventuelle, formelle, ne serait-ce que formelle, avec une telle capacité de résistance, arriver à traverser une nuit de 2000 ans, tout en sachant que dès minuit, le coq se met à chanter pour annoncer le matin, mais une nuit de 2000 ans. C'est non. Bien. Ou alors, sa stratégie de rabbin, c'était de dire à qui les interroger, l'année prochaine, d'année en année, de 2000 ans. C'est non. Bien dans son vue, à l'homme, il peut corriger Tishmaru. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, ou bien, Baragala, Bismankari, Bimain Rabbi Amenu. Et puis, avec cette stratégie qui est de patience, on a pu traverser ces 2000 ans de retard. Je configurerai là un item que je signale en passant. L'identité messianique, c'est l'être en retard. Et c'est ce que dit notre texte. Que la manière d'être du Mashiach, c'est de venir en retard. Mais on va quand même éclairer ce point. La Gemara nous donne un éclairage très précis, très cohérent. La Gemara dans Saint-Edrin dit qu'il y a deux voies périlleuses possibles de la fin du temps d'exil. Soit la dimension de la fin du temps d'exil vient à travers un mérite suffisant pour que ça arrive le plus vite possible, comme nous le demandons dans les prières. La citation de la Gemara, c'est Zacha Achishana. Et il faut se demander de quel mérite ça veut dire. Un texte très important du Maharal, dans Mahou Attaché, indique que, et le Maharal, il y a à peu près 3 siècles, indique que finalement, nous n'avons pas obtenu, nous n'avons pas eu ce privilège, de ce mérite auquel il y a fait allusion, et qui aurait fait que des siècles d'exil nous auraient été économisés, et que finalement, il fallait attendre la fin. Il fallait attendre l'autre dimension, l'heure venue, au rendez-vous de l'horloge des temps, si j'ose dire, nos affaires, Beïka. Et s'il n'y a pas ce mérite, et le mari en parle comme d'un mérite exceptionnel, il faudrait un mérite, je ne sais pas quel adjectif superlatif employé, pour pouvoir l'obtenir. Notre histoire en témoigne, puisque la ferveur de ce l'année prochaine, la Jérusalem était authentique. C'est vrai. Quand les Juifs disent l'année prochaine à Jérusalem, eh bien, ce n'est pas une façon de parler. Ils y croient, ils y croyaient. Maintenant, 2000 ans, la preuve, c'est qu'on est en fin de compte arrivé grâce à ce l'année prochaine à Jérusalem. Mais, nous témoignons a posteriori de 2000 ans de l'histoire, nous n'avons pas mérité de revenir dans cette première voie de la fin de vie, c'est-à-dire que la Gemara appelle Achishana, d'après un verset d'Isaïe. Je ferai anticiper, je ferai venir un peu plus vite, c'est-à-dire, avant la date fixée par la sagesse du Créateur qui sait que son monde doit suivre une programmation de temps et que les prophètes connaissaient. Les prophètes connaissaient la loi des temps, le Rey Bina Haïti, et que s'il n'y a pas de mérite suffisant, alors il faut attendre l'heure du rendez-vous. Et à l'heure du rendez-vous, qu'on ne veuille pas, et tout ça, comme ça, on n'a pas voulu, ça nous a été imposé, à part cette poignée d'avant-garde de mystiques qui étaient les sionistes non religieux, et qui ont obligé le peuple juif à revenir sur cette terre. Pour cela, je l'indiquerai rapidement, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, c'est un mouvement sioniste, un mouvement politique, est apparu dans le monde ashkénaze. Et il est apparu dans le monde ashkénaze en opposition avec le judaïsme traditionnel. Et les fondateurs du sionisme politique n'étaient pas seuls, ils avaient aussi des rabbins avec eux, et des grands. Mais c'est quand même en dominant les chilonim, les mangeurs de ce que vous savez, citation de Yadelio, qui nous ont obligés à revenir chez nous. Ils ont dû se déjudaïser pour devenir juifs. de ça, pardon, de ça nous avons tout encore
à reparler tout à l'heure. Et ça veut dire que
le rabbin connaissait, c'est. Bon, on dit souvent que les kabbalistes, eh bien, connaissaient les dates éventuelles d'époque où, s'il y a mérite, c'est possible. Et ce sont ces dates-là qui ont fini par, comment on dit ça, indiscrétion, comment? Il y a eu des fuites. Donc, c'est ces dates-là qu'ils ont désignées, ça veut dire que c'était les dates possibles s'il y avait eu mérite. C'est avec assurance et certitude qu'ils pouvaient dire, d'après nos connaissances, voilà telle date. Et après, elle est passée, bon, ben, telle autre. Alors que, est-ce que c'est clair? Alors que l'autre perspective, c'est ce qu'on appelle le Ketsamegoulé. Ketsamegoulé, la fin dévoilée, la fin, comment dire, sine qua non, la fin objective, et qui ne dépend en aucun cas de qu'un mérite, puisque la charité était très claire. S'il mérite, j'avancerai le temps, s'il ne mérite pas, c'est en son temps. Et la fin en son temps n'a aucun lien avec le mérite. C'est l'accomplissement des promesses qui se fait, et elle se fait, ça c'est un enseignement que je tiens du Rav Levin Nachmani, elle se fait malgré nous. Je vous une petite parenthèse sur cet enseignement du Rav Nachmani. Et cette date aussi, qui est avec lui, est connue. Et c'est avant de le dire, c'est l'année où nous sommes. Si vous voulez savoir, eh bien, les textes existent. Vous vous renseignez, et on vous donnera les références dans l'enseignement du Rav Levin, qui a donné la date de cette année où nous vivons, qui a commencé à Moshana, et qui est l'année de la Chan, et qui est l'année du Ketsamegoulé. Alors, c'est pas par hasard qu'un tel maelstrom d'événements colossaux considérables, si j'ose dire, qui touche une humanité entière en relation avec Israël. Je n'ai pas à les énumérer. Vous lisez les choses. Vous savez que la terre entière, la planète, est en train d'accoucher d'Israël. Et c'est dans un accouchement, dans la douleur, pour la terre entière. Et pour le bébé aussi. Enfin, c'est irréversible, le bébé est en train de naître, et personne n'y peut rien, même pas les charolis. J'y reviens. Alors, la question qui va se poser à nous, eh bien, je vais la relier à un enseignement de la Veda de Pessah, que vous retrouverez dans le poussant du CD, Baruch Shomer Tahato Israël. Béni est celui qui garde sa promesse à Israël, Baruch Hu, béni est il est. Je n'ai pas traduit comme on traduit en français, béni soit-il. Okay? Parce que ce n'est pas écrit béni soit-il. Il n'y a pas Baruch il est, il y a Baruch Hu. Donc, chacun Baruch Hu, Richard est à quête. Alors voilà que le bon Dieu se met en porte-à-porte avec la Gemara de Sanhedrin que j'ai lu. Qu'est-ce que dit la Gemara de Sanhedrin? Tipar Atzman, Shemer Hashivet Itzim. Et qu'est-ce que nous dit maintenant la Veda de Pessah? C'est que c'est le bon Dieu qui voit ça. Il fait les comptes, il fait les calculs de la fin. Ça, c'est l'humour rabbinique. Et là, il semble-t-il qu'il y a une contradiction. Que, je répète, brièvement, d'une part, on nous enseigne, ça interdit de faire les comptes de la fin, et voilà qu'on nous enseigne que nous sommes sortis d'Égypte grâce au fait que Dieu a fait un compte de la fin. Bon, allons à la Veda de Pessah. Eh bien, de quoi il s'agit? C'est que nous avons trois dates dans les versets qui parlent du moment de la sortie d'Égypte. Je le rappelle très brièvement, ça vous est familier, mais je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas en tête. Il y a la date de 210 ans qu'a duré l'exil d'Égypte depuis la descente de Jacob, qui vient avec sa famille rejoindre Joseph, jusqu'au moment où la direction de Moïse, la sortie d'Égypte a eu lieu. Il y a la date de 400 ans qui est prédite à Abraham. Je cite le verset rapidement et je traduis. Il y a deux Abraham qui guérit et Zaracha d'être la haine, parce que Dieu dit à Abraham, savoir tu seras étranger, sera ta postérité dans un pays qui n'est pas le leur. Va'adou, Beinu, Otan, Abraham et Otshana, on les opprimera, on les persécutera pendant 400 ans. Mais Gamatagoy, Hachem, Yahoudou, d'Anamari, et la nation qui les auront opprimés, je la jugerai, va et ensuite ils sortiront avec de grandes richesses, de grandes valeurs. traversé, l'exil était censé durer 400 ans. Il y a d'autre part, une autre date de 430 ans, que vous trouverez à la fin du chapitre 12 de l'Exode. Donc, eh bien, très rapidement, voici comment la tradition enseigne qu'il n'y a pas une tradition entre ces trois dates. 430 ans, c'est depuis le moment où Abraham a entendu ce verset « Ta descendance sera étrangère pendant 400 ans ». C'est le moment de la révélation Abraham. 400 ans, c'est à partir de la naissance d'Isaac, puisque la descendance d'Abraham, dont il s'agit dans la révélation biblique, c'est évidemment pas par Ishmaël, mais par Isaac. Donc c'est à partir de la naissance d'Isaac qu'il y a une postérité à Abraham. C'est clair ? Et 210 ans, c'est le temps réel de cet exil d'Égypte depuis la naissance de Jacob en Égypte. Donc la contradiction apparente se resserre entre deux dates, 210 et 400. Bien. Ça veut dire que, effectivement, notre Agada de Pessah en disant « Baruch Shomer HaTorato d'Israël, Shakadu Baruch Hu Shevetotev » que Dieu s'est arrangé pour anticiper la fin de l'exil d'Égypte qui aurait dû durer 400 ans, mais qui n'a duré que 210 ans. Dieu s'est arrangé en faisant un calcul qui fait commencer les 400 ans 190 ans avant qu'ils auraient dû commencer. 190 ans avant la descente de Jacob en Égypte, c'est la descente d'Isaac. Et donc, derrière cette expression, « Chacun de l'or pour riche et de ta car Dieu a compté le temps de la fin des îles, nous relie au mérite d'Isaac. » Et encore, là, je vais former par rapport à ce que nous vivons, nous, dans le temps contemporain, encore une fois, l'objet du débat entre les Chaldéens et tous les peuples. C'est que Isaac est le seul des trois patriarches qui n'ait jamais quitté l'Eretz Israël. Et ça veut dire, en termes contemporains, et je risque l'anachronisme, si vous voulez, Isaac, c'est le seul des trois patriarches qui était sioniste et chrétien. Les deux autres patriarches sont aussi à cheval sur la galoute. Abraham naît en galoute, Jacob meurt en galoute. Est-ce que c'est clair, hein? Mais Isaac, lui, c'est un cas particulier, il n'a jamais quitté l'Eretz Israël. Et ça signifie donc que le quête a été rendu possible, hors de quoi Israël disparaissait en Égypte, nous verrons ça immédiatement tout à l'heure, le quête a été rendu possible par le mérite d'Isaac. Dieu a fait débuter l'espace de temps de 400 ans à la naissance d'Isaac. Et ça veut dire en clair, grâce au mérite d'Isaac. En tant que fils de Jacob, il n'y a pas de quête. En tant que fils d'Isaac, il y a quête. Quelle est la différence entre par rapport à l'étudiant, entre l'expression « fils de Jacob » et l'expression « fils d'Isaac ». Eh bien, l'expression « fils de Jacob » renvoie à une manière d'être Israël qui peut se définir dans la dimension galactique d'un exil qui ne devait pas faire. Et c'est ce même homme, Jacob, qui est Israël. Mais Jacob, et tous les textes en renvoient, il n'y a aucune exception, Jacob, c'est le nom d'Israël dans la Galilée. Et Israël, c'est le nom de Jacob parce qu'il revient. Par conséquent, il y a une dimension Jacob de notre être, Israël, qui elle, est un exil qui, par définition, n'implique pas la fin. Alors que si nous nous relions à Isaac, alors là, il y a possibilité de fin. C'est-à-dire, encore une fois, c'est ce lien à la terre d'Israël, la terre des Hébreux, que nous n'avons quitté que contraint et forcé, qui fait qu'on a pu y revenir. Et il s'agit bien de la terre des Hébreux, et pas d'une espèce d'Israël messianique mythique, qui est un autre problème. Mélangé au retour à Sion, ça devient mythique. Pourquoi j'ai dit la terre des Hébreux? Parce qu'il y a une contestation planétaire sur la légitimité d'Israël sur sa terre. Au point que les Juifs eux-mêmes sont perplexes, se demandent si, au fond, cette terre n'est pas légitime pour deux peuples, lesquels la descendance d'Ishmaël et la descendance d'Israël. Beaucoup de Juifs, de bonne foi, sont travaillés par cette perplexité. Peut-être y a-t-il deux droits en opposition, les droits du peuple juif et ce qu'on appelle les droits légitimes du peuple palestinien. Qu'est-ce que ça veut dire juridiquement? Qu'il y aurait des droits légitimes des Arabes sur le pays d'Israël. C'est clair. Alors on discute de cette perplexité. il n'y a que une situation a posteriori de la présence de populations arabes en Israël descendant de conquérants. Et les Juifs revenant sur leur terre, eh bien, ils trouvent des occupants. Et alors, comme on peut discuter à deux niveaux, comme les Juifs sont des Juifs et ne se conduisent pas comme les non-Juifs, alors il y a un problème arabe en Israël. Si les Juifs se conduisaient comme les non-Juifs, il n'y aurait plus de problème arabe en Israël. Pour la raison élémentaire qu'il n'y aurait plus là-bas. Ils seraient rentrés chez eux. Ou au paradis de Mahomet, ou en Arabie. Je pense que c'est clair. Je crois qu'il ne faut pas s'empêtrer dans ses propres vertus. C'est parce que les Juifs sont Juifs qu'il y a un problème palestinien. Je n'irais même pas jusqu'à dire que, à l'inverse, si c'était les Palestiniens qui posaient le problème, il n'y aurait plus de Juifs. Mais pas jusqu'à n'importe quelle nation du monde aurait supprimer ce problème, il n'y a que les Juifs qui se la posent. Ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils sont soumis à la Torah. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Or, transformer une situation de contraire, a posteriori, en une question de droit, et là, je n'ai pas parlé du Haroldi Yosef parce que je crois que le discours de la charge est beaucoup plus important, mais j'ai encore en l'oreille le discours du Haroldi Yosef. C'est un discours aussi de même, comment dire, orientation politique, le fait de ne pas, comment dire, irriter l'égoïsme en leur disant la vérité. Ah, il ne faut pas irriter l'égoïsme, alors il faut dire des mensonges. Okay. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Donc. Et alors, cette expression, la terre des Hébreux, elle est employée par la Torah pour désigner le pays Canaan. Ça veut dire que ce n'est pas a posteriori que ce pays, qui aurait été un pays qui appartenait aux Cananéens, a été pris par les Hébreux, et que c'est a posteriori qu'on a perdu avec Israël. Ce pays s'appelle le pays des Hébreux avant que l'histoire d'Israël ne commence. Et il en met tout de suite la référence. C'est dans un passage de la Torah, dans Bereshit. Lorsque Joseph, dans la prison d'Égypte, de Potiphar, rencontre les ministres, qui était en Bastillé, dans cette même prison, lui raconte son histoire et dit « J'ai été volé du pays des Hébreux. » Qui avait comme Hébreux au temps de Joseph, sur ce pays de Canaan, Jacob et ses fils. Or ça s'appelle le pays des Hébreux, et des ministres du Pharaon, ils sont cultivés, ils comprennent, ils savent que c'est le pays des Hébreux. Je crois pas qu'il n'y a pas de preuve plus simple que la lecture, comme elle est écrite. Pourquoi on lit la Bible à l'envers ? C'est parce que l'inversion est dans le cœur de celui qui lit. Quand on est à l'envers, on lit la Bible à l'envers. Je ne sais pas si c'est clair. Moi, je reviendrai tout à l'heure. Je ne parle pas des Juifs d'envers. Il faut revenir en tout cas. Au sujet, ils sont juste à l'envers de Bruxelles. Il faut revenir au sujet. Lorsque Moïse, un peu plus tard, va être chargé par Dieu d'annoncer son programme de sortie d'Égypte au Pharaon, eh bien, il va l'annoncer au nom du Dieu des Hébreux. Et le Pharaon comprend qu'est-ce que c'est que le Dieu des Hébreux. Et c'est-à-dire l'identité hébraïque est préalable à l'histoire d'Israël. Et c'est pas avec les patriarches que l'identité hébraïque a commencé. C'est un ancêtre d'Abraham, qui a fondé la nation des Hébreux, dont Abraham est le seul rescapé d'une histoire d'exil à Orézé. Les Hébreux étaient en exil dans la diaspora du temps. Et le récit de la Torah commence à la sortie d'Abraham de son propre exil et il rentre chez lui. Je me réfère tout au début de la parasha de Lech Lecha, lorsque Dieu dit à Abraham, va de ton pays, de ta maison où tu es né, de ta maison natale, de ton pays natal, de ta patrie dans le sens de là où tu es né, okay, on l'a dit. Et va à l'endroit où je me révélerai à toi. On ne se rend pas compte de ce qu'on dit. Et là, il ne dit pas du tout, il ne lui dit pas du tout. C'est comme s'il lui disait, si tu arrives là où il faut, tu me trouveras. Est-ce que c'est clair ce que et le récit continue, et Abraham, tranquillement, se dirige vers le pays de Canaan. Lui, il savait. Il rentre chez lui, tout simplement. Et ce pays s'appelle le pays du caca, de Canaan, parce que le Canaan dit Asbaret, parce qu'il était alors occupé par les Cananiens. C'est le pays des Hébreux, occupé des Cananiens, par les Cananiens, quand les Hébreux étaient en exil à Ocasie. Et on me demandait, qu'est-ce que c'est les Hébreux à Ocasie? C'est pas une question. Qu'est-ce que sont les gens d'Amérique? Et bien, c'est la même chose. Est-ce que c'est clair? Bon. Et là, vous voyez que la position de l'homme, elle commence dès Abraham à être disqualifiée. Qu'est-ce que c'est un juif galactique au moment du fait d'exil? C'est quelqu'un qui veut passer d'Abraham. C'est quelqu'un qui veut rester à Haran. C'est quelqu'un qui veut rester dans la galoute antérieure. Et celui-là, on l'appelle Laban à Arami. On a rendez-vous avec lui tout à l'heure, avec notre Mishnah. Laban à Arami, il est dans la famille d'Abraham, il est l'oncle de Jacob. Et la bête à l'adresse, ça va nous désigner comme le pire ennemi d'Israël. Bien, je n'ai pas encore dit comment l'identifier dans cette tentative très hasardeuse que je fais ce soir d'une typologie qui m'enlève, donc là, comme je dis tout à l'heure, que personnellement, mais je ne vous lis pas des manifestes sionistes, je vous lis la Torah. C'est grave, hein, c'est sérieux. Donc, alors on verra à qui on peut comparer Laban à Arami, qui pour la Kadat Pessah est le pire ennemi de Jacob Israël. Eh bien, voilà ce qui se passe. Ici apparaît la figure d'un des trois patriarches que la demande appelle Olat Lima, et à qui il est interdit de descendre du pays. Vous relirez tout ça. Quand Isaac pense que peut-être il faut tout recommencer, parce que son fils Esaü, qui était l'aîné sur la nature, a échoué, qu'il faut tout recommencer, il pense à descendre en Égypte, Dieu l'arrête à la frontière, à Berchera, il dit, toi, tu quittes pas le pays, toi, tu es en Latinima. Et c'est grâce à cette manière d'être Israël qui s'appelle Isaac, qui est, encore une fois, ne nous prenons pas à l'aspect anachronique de terme que j'emploie, qui est le sionisme des trois patriarches, okay, que le retour est possible. Que, normalement, il aurait fallu attendre 190 ans après le temps réel de la sortie d'Égypte. Mais nous savons par toutes les sources qui en parlent que si le peuple hébreu était resté en Égypte 190 ans de plus, il était perdu pour deux raisons. Une intérieure, qu'on appelle aujourd'hui l'assimilation. Les Hébreux, et tous les Midrashim qui parlent de ça en font foi, même s'ils se recordent à leur temps où la galoute était romaine et prenait des noms latins, eh bien les Hébreux en Égypte se prenaient pour des Égyptiens. Un peu comme tous les Juifs se sont pris pour le monde entier, dans le monde entier ils étaient. Par contre, je ne résiste pas à répondre une fois de plus cette première impression que j'ai de la première rencontre avec le Rassi Loudas de Moribacha il y a très très longtemps, pour les premiers groupes d'étudiants de France venaient étudier chez lui. Oui, avant. Et alors, il avait l'habitude de nous donner comme première sikha, une sikha entière sur Shalom. Il nous disait Shalom. Bon, alors on commençait à étudier, qu'est-ce que ça veut dire Shalom, okay. Et alors, on apprenait énormément de choses, et puis après il disait Shalom Aleichem. Donc après il expliquait, c'est Shalom Aleichem. Et après il demandait aux étudiants qui étaient là, d'où vous venez. Alors je schématise, imaginez un étudiant venant de France, mais d'origine nord-africaine, il y en avait déjà à l'époque. Et c'est récent, cette alia sera par la France. À l'époque, c'était pas encore le temps, il y en avait quelques-uns. Alors imaginez un juif, disons, né au Maroc, mais venant de France, qui répond à Cook, et bien je viens de France. Ah bon? Et avant? Quoi avant? Ben je viens de France, non, même, ah oui, du Maroc. Et avant? Eh bien du Maroc. Mais avant? Ah oui, d'Espagne. Et avant? Alors là, commencez à comprendre. Ah oui, d'Israël. Alors il dit, tu reviens chez toi, va au travail. Est-ce que c'est clair la leçon de cette histoire? Et alors, quand c'est donc ce que je disais, qu'il y a une des retombées de la vie en exil, c'est qu'on finit par se prendre pour quelqu'un d'autre. Et j'ai l'habitude de dire que ça se prend pour quelqu'un d'autre, c'est pas un problème pour rabbin, c'est un problème pour psychologue. C'est une maladie mentale, tout simplement. Et alors, quand les juifs, avec une sincérité désarmante, se prennent pour des goïms, alors il y a des choses qui grincent dans l'histoire. Hein. Essayez d'imaginer Et à quel point il y a des juifs qui sont sincères lorsqu'ils disent qu'ils sont français?
Non, aucune idée. Moi, j'ai fait partie d'une génération, comment appeler ça en français, cocardière. Il y avait deux sortes de juifs qui étaient plus français que les français. C'est les Alsaciens et les Algériens. Bon. Jusqu'à ce que j'ai compris qu'on faisait une confusion linguistique, mais qui était dans la confusion mentale. On était citoyen d'État français, un cadeau de la France. Et au lieu de dire merci, on se prenait pour les Français. Je ne sais pas si c'est clair. Et en plus, plus français que les autres. Et puis, bon, voilà, ouais, bon, une histoire de fou. C'est l'histoire juive, c'est aussi une histoire de fou. En tout cas, pour revenir à notre problème, il n'y a pas que l'aspect négatif. Voilà, parce que nous ne sommes pas un peuple de clowns, finalement. Pourquoi on joue aux clowns? Il y a quelque chose de plus profond. Il y a dans les entités juives, en tant qu'hébraïque, une tendance à l'universel et qui rencontre et qui mène à tous ces dévoiements. Et les juifs aiment tellement l'humanité, ben, qu'ils se prêtent pour quelqu'un d'autre. Ça va être très bien. Il y a aussi un aspect positif. Mais l'aspect positif est anachronique. Quand c'est le temps de la galoute, c'est le temps de la galoute, mais quand c'est le temps du retour, alors il y a ces freins et ça a joué à la sortie. Et donc, il fallait anticiper la date de la sortie d'Égypte, probablement à cause d'un très grand danger intérieur, celui de l'assimilation. Imaginez cette chose inutile. Ça peut paraître ridicule aujourd'hui. Dans ce sens-là, les Hébreux en Égypte se prenaient pour des Égyptiens. Bon, eh bien, c'est pas plus ridicule que les Juifs en Amérique qui se prennent pour des Américains et que les Juifs en Corse qui se prennent pour Corse. Parce que vous savez pas, il y a déjà un patriotisme juif local Corse. Après tout, c'est pas plus honteux que d'être auvergnat. Bon, il y a des Juifs auvergnats. Mais alors, est-ce que c'est clair ce juif-là? Je voudrais être très clair. Je crois que nous avons tous eu, en tant qu'Arolim, cette expérience. Alors je vous dis comment moi je l'ai vécu. Ce n'est que depuis que je sais que je ne suis pas français, que je peux tranquillement apprécier la culture française, qui est une très grande culture, et dire merci à la France de m'avoir fait ce cadeau. Je ne sais pas si c'est clair ce juif-là. Parce que, quand j'étais en France, j'ai passé la première vie en France. Et alors, quand j'étais en France, et que je dialoguais avec un Français, je vais vous décrire cette histoire de fou. C'était un juif qui se prenait pour un Français, qui parlait à un Français qui se prenait pour un juif, ça s'appelle chrétien. L'énormité. Alors que maintenant, grâce à Dieu, redevenu soi-même, alors quand, par exemple, j'ai des réunions avec ça dépend des consuls, au consulat, eh bien, alors c'est clair, c'est un hébreu qui parle à un boulot. C'est clair. Et c'est un dialogue franc. Je vous garantis que c'est pas exprès. Alors, en tout cas, pour revenir à notre problème, il y avait ce danger, et ça s'appelle aujourd'hui l'assimilation. Et il y a le deuxième danger, qui s'appelle l'antisémitisme, la persécution. Il y avait le deuxième danger de la haine des Égyptiens déclenchée par la tendance à l'assimilation. Parce qu'il y a des stades. Au début, ils avaient été honorés. C'était les sauveurs du pays. Mais quand ils sont pris pour le pays, c'est comme ça que tu as l'inquisition aussi. Quand les juifs espagnols ont dit à l'Espagne, nous sommes espagnols, d'ailleurs plus espagnols que vous, alors les espagnols leur ont dit, on leur a montré que c'est un espagnol, inquisition. Quand les juifs allemands ont dit aux allemands, ben, nous sommes allemands, alors les allemands leur ont dit, vous allez savoir que c'est un allemand, pas choix. Est-ce que c'est clair ce juif-là? Eh bien, il y a eu ce danger de disparition par l'intérieur et disparition par l'extérieur. Alors il fallait anticiper la fin. Et c'est pourquoi, alors je ne sais pas, c'est pas nécessaire de dire ben, à quoi ça ressemble tout ça, à ce que nous avons vécu ces dernières générations en Europe, tout simplement. La même chose. L'histoire ne se refait jamais de la même manière, mais c'est la même. Et alors, Moïse intervient, en principe, 190 ans avant le temps connu. Et des Égyptiens et des Hébreux, 400 ans, c'est 400 ans. Et ça explique la résistance que Moïse a rencontrée en Égypte, tant de la part des Égyptiens que de la part des Hébreux. La réaction a été, c'est pas le temps. Est-ce que c'est clair? Imaginons qu'il y ait un contrat de travail entre Israël et l'Égypte,
mais les deux contractants sont au courant, hein, 400 ans. Et quoi, vous voulez partir avant 400 ans? Et puis les Hébreux, qui étaient très pieux, ils disaient, mais c'est pas toi le Messie. Ils parlaient à Moïse, c'est pas le temps. Okay? Alors voilà, vous voyez à quel point ça ressemble. Parce qu'effectivement, là j'en arrive au premier point, effectivement, les événements d'Égypte, eh bien, j'espère qu'on aura tout le temps de voir ça dans la commande elle-même, les événements d'Égypte ont été doubles. Il y a une dimension négative, une Shoah qu'on a oubliée. 4/5 du peuple hébreu a disparu dans cette Shoah d'Égypte. Et puis, la deuxième dimension, la dimension positive, la libération, la Géoula, la sortie d'Égypte. Alors, je reprends mes termes anachroniques, okay? Eh bien, au temps de Moïse en Égypte, dans ce contexte d'anticipation des événements, de résistance auquel Moïse s'est heurté tant chez les Goïm que chez les Haredim de son temps, eh bien, il y a eu les mêmes événements. Il y a eu Shoah et sionisme. Ça, on arrive au deuxième point, le programme de la sortie d'Égypte, un programme sioniste en termes contemporains. On sort d'Égypte, pourquoi? Pour entrer au pays des Hébreux. On ne sort pas d'Égypte pour rester dans le désert. Est-ce que c'est clair ce livre? Alors vous voyez la coupure qui s'est faite dans notre peuple depuis que, au nom d'une certaine vision galoutique de la Torah, une partie du peuple s'est opposée au sionisme. Et c'était la fondation de l'État d'Israël. Et puis, ça a été, comment dire, démasqué il y a quelques jours par le discours du Rabchar. Alors qu'il faut être reconnaissant d'avoir mis les points sur les i. Okay. Maintenant, il ne faut plus se tromper, c'est clair. Il y a d'un côté, les sionistes selon l'esprit, le rouah, okay, et de l'autre côté, les juifs selon l'esprit, et de l'autre côté, les juifs selon la chair, c'est-à-dire ce qu'on fait le pays, air connu. Enfin, ça vous dit quelque chose, ça, selon l'esprit et selon la chair. Donc, c'est-à-dire, le schisme est déjà consommé. Alors, il faut en prendre acte. Et il faut savoir que nous avons des temps difficiles. Il y a des temps difficiles et qui ressemblent étrangement à ce qui s'est passé au temps du deuxième temps entre les Sadducéens et les Pharisiens. Et finalement, les Sadducéens ont disparu. C'est les Pharisiens qui sont Israël. Et l'autorité halakhique était sadducéenne au temps du deuxième temps. Le grand prêtre était sadducéen. Alors, je ne sais pas si vous voyez se mettre en place cette dualité des autorités. Il y a l'autorité halakhique de l'État d'Israël. Il y a l'autorité à l'Afrique des Khaledi, d'accord? Et là, c'est les Sadducéens, les Pharisiens, c'est clair. On recommence. Et ça veut dire qu'on va vers des temps difficiles. Il arrivera un temps où on ne pourra plus se marier entre nous. Et quand on arrivera là, eh bien, c'est que le Messie sera déjà venu. Donc, bon, vous avez compris un peu ce que je dis. C'est déjà plus la même religion. C'est encore le même peuple. C'est déjà plus la même religion. Et c'est d'autant plus grave que c'est malheureusement, ample, qu'on ne peut pas ne pas, comme phénomène, qu'on ne peut pas ne pas en prendre acte. Les Haredim conscients n'auraient pas du tout aimé ce tapage qui a été fait, cette espèce de publicité qui a été donnée à leur position. Parce que leur position, c'est d'être dans l'ombre. C'est de tenir le coup jusqu'à ce qu'un Messie vienne leur donner raison. Et est-ce que c'est clair? Et en attendant, de profiter, je vous ai pas envoyé de terme trop dur, de ce que ces impurs de sionistes font un état dont on peut être parasite. Et ça va jusque-là. Alors maintenant, ça s'est dégagé. Il y aura inévitablement une réaction dans le peuple israélien. Et si elle tarde, on va la provoquer. Évidemment. Et ça commence déjà. Et on ne peut plus laisser les choses en état. Il y a eu une réaction dans la rue Sfarad Haredit qui est indéniable. Et puis il y a une réaction de la part des Chilonim, des Israéliens Chilonim, qui se sont trouvés insultés. Et là, moi je m'étonne, parce qu'ils savaient ça depuis longtemps. Ils savaient très bien que c'était l'état des choses depuis très longtemps. Est-ce que c'est clair? Maintenant, ça a été débattu. Alors, on arrive très rapidement au deuxième point. Quel est le programme de la sortie d'Égypte selon la Torah? Je vais vous lire très rapidement le début de la paracha de Vaera. Et sur lequel, c'est le texte sur lequel est basé l'institution des quatre coupes du Seder de Pessah, qui primitivement étaient cinq. La cinquième a été supprimée après la destruction du premier temple, pas exactement supprimée. De Chova, elle était devenue mitzvah, d'obligation, elle était devenue mitzvah à faire, mais pas obligée, okay, bonne action, et, mais il y a eu quand même, c'est signalé dans la Mishnah, il y a eu quand même des communautés entières qui ont continué à pratiquer cette cinquième coupe du Seder, mais en général, elle est devenue la coupe dédiée à mon ami, qu'on ne boira que lorsque le temps sera arrivé de la cinquième coupe, nous allons voir de quoi il s'agit. J'anticipe pour l'avoir dit, en fait, le Rav Goren, lorsqu'il était dans Rabbin Israël, a pris la décision, après la guerre de Kippour, de réinstituer cette cinquième coupe, et ça s'en a peut-être eu dans, entre les mains, la Hagada qui a été dictée à ce sujet, et que j'ai eu à traduire en français, et qui a été illustrée par Noétique, je suppose que vous avez eu ça entre les mains, et où j'ai mis dans cette édition de la Hagada, le psak de Rav Goren, où il y a tout le renseignement qu'il faut sur cette histoire de la cinquième coupe, mais là on dit que dès 48, Rav Kacher, qui était l'auteur du Torah Shlema, il est mort il y a quelques années, l'auteur du Torah Shlema, une encyclopédique considérable, et qui a écrit Nagada de Pessah avec toutes les rites connus à travers le monde juif pendant 2000 ans, et qui avait demandé que dès l'indépendance, donc au moment de la fondation de l'État, il avait demandé que l'autorité à l'Afrique, le grand rabbin, institue la cinquième coupe et la lecture de la Migilat HaAtzmaout au moment de la lecture, au moment de boire la cinquième coupe. Ceci n'a pas été retenu à l'époque. Je veux dire qu'il y a certains kibbutzim qui, des kibbutzim chilonim d'ailleurs, qui anticipant de manière assez étrange, c'est une dommage, je le disais tout à l'heure, dans leur Agada chilonite de Pessah Chiloni, raconte la sortie de la Shoah et à la place de la sortie. Ils font allusion à ça, ce qu'ils nous disent, mais leur Agada de Pessah, c'est l'Agada de Pessah de la fin des temps, celle de notre temps, et comme on parle à Gomara d'ailleurs, je vous citerai Gomara tout à l'heure. Et alors, voici donc, quel est ce programme annoncé par Guernoy et par Moïse à Israël, dans la référence, c'est chapitre 6 de l'Exode. Je commence ici. La reine est mort d'une Israël. Voilà comment Dieu s'adresse à lui. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, Ani Hachem, je suis Hachem, de l'Otséti et Très Vitarat Sivot d'Israël. Et je ferai sortir de dessous les fardeaux de l'Égypte. Veit Salti et Très Maolatam. Et je vous sauverai de leur servitude. Les gars tireraient l'isoire de Tuya, et je vous délivrerai avec main forte et bras étendus et avec miracle. Et déjà là, dans ce verset, il y a trois verbes de délivrance qui sont employés, Verzeti, Vitsalti, Vegalti, qui correspondent aux trois premières coups. Et ensuite, Velakarti, Etrem, Lileam, Vaitilachem, Elohim, et je vous prendrai comme peuple, et vous serez, et je serai pour vous Dieu, et vous saurez que je suis Hachem, votre Dieu, qui vous fait sortir de dessous les fardeaux de l'Égypte. Quatrième verbe, et la carte. Cinquième verbe, et Etrem, au verset 5 d'ailleurs, et je vous amènerai au pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai comme héritage, je suis Hachem. Faire ensemble, pas le programme. Je vous fais sortir de l'Égypte, il y a trois niveaux, plus un quatrième de sortie de ces niveaux de servitude, et puis, pourquoi? Pour vous amener au pays, cinquième niveau. Ça, c'est clair. Alors, lorsqu'on est redescendu en Galoute, ceci n'était pas réalisé, alors on a mis, entre parenthèses, la cinquième coupe. Après la guerre de six jours, c'est-à-dire de Kippour, Ken, son vœu, Jean Borel a fait le jugement suivant. Peut-être que on pourrait admettre, jusqu'au moment de la guerre de Kippour, ce doute de beaucoup de gens qui s'imaginent que nous ne vivons que des événements immanents, que des événements politiques, historiques, sans aucune intervention de Dieu. Mais après la guerre de Kippour, celui qui ne croit pas que c'est Dieu qui nous a sauvés et nous a ramenés ici, c'est qu'il est mystique. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Il faut être mystique pour ne pas croire ça. C'est-à-dire, à la guerre de Kippour, je ne sais pas si vous vous souvenez ce qui s'est passé, et bon, on a failli passer, okay. Si ce n'était pas une poignée de jeunes gens sur le Golan, on a arrêté les Syriens, et on ne sait pas ce qui serait passé. Il y a eu des temps de Syriens, on ne sait pas ce qui serait passé. Alors, on analyse. Après ça, si on ne voit pas que c'est Dieu qui nous a ramenés, alors c'est qu'on est bouché à l'aimerie, c'est qu'on est incroyant, c'est qu'on est sans foi, c'est qu'on est avec Dieu. Pratiquant. Pratiquant, mais la foi, voilà. Ça veut dire, et là, j'ai un problème grave. Ça veut dire, si c'est pas Dieu qui nous a ramenés, alors qui c'est qui fait ça? Il faut être vraiment picose pour croire que c'est les Juifs, avec leur seule force, qui font ce qui se passe. Je parle des croyants. Si un croyant ne voit pas que c'est Dieu qui intervient, alors c'est qu'il n'est pas croyant. Moi, c'est un problème grave. Et le Talmud parle de ces tzadikim asherenam ma'amin, la fin de la Gemara Sota. Il y a des justes qui pratiquent comme il faut et qui ne croient pas. Vous allez dire à un charedi qu'on dit d'eux qui ne croient pas, ils vont s'arracher les yeux. Bien. Mais vous voyez, l'accessibilité du Dieu. Parce qu'ils croient, mais en quoi ils croient? Ah, c'est un mystère. En quoi ils croient? Est-ce qu'ils croient dans la foi d'Israël? Ils ne croient pas dans la foi d'Israël. Puisque, alors j'en arrive à des problèmes très graves. Puisque, si ce n'est pas Dieu, je me mets dans la problématique d'un croyant. Si ce n'est pas Dieu qui nous a fait sortir de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui nous a ramenés ici, maintenant, à la fin du dernier exil, alors qui c'est qui fait ça? Eh bien, il répond, le diable.